Bonsoir. Élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Barack Obama réélu pour un second mandat de 4 ans. Assemblée nationale, examen en cours à la Chambre basse du Parlement du projet de la loi budgétaire pour l'exercice 2013, dont les recettes s'élèvent à 6 973,9 milliards de francs congolais, soit 7 400 millions de dollars américains. Tels sont les thèmes que vous propose Tribune de la Presse de ce soir. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Marcel Ngoï, il est éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Marcel Ngoï.
Bonsoir.
J.R. Mokolo, il est rédacteur en chef à Canal Congo Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir J.R. Mokolo.
Oui, bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et Gaston Mouchi, directeur général de la radio-télévision Manika, émettant depuis Kolwezi Okatanga. Bonsoir Gaston Mouchi.
Bonsoir Guy Maté.
Obama réélu pour un nouveau mandat de 4 ans, 7 400 millions de dollars, tel est le montant du projet de budget 2013 en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Pour savoir comment la presse a traité ces informations, écoutons cette revue de presse que nous propose Samuel Kachak.
Bonsoir. Élection présidentielle américaine. L'Afrique attend plus d'engagement d'Obama, titre le potentiel. Ce quotidien note que dès sa première élection en 2008, comme premier afro-américain à la tête des États-Unis d'Amérique, l'Afrique attendait voir le président Barack Obama se pencher utilement sur son sort. 4 ans après, elle n'a été servie que de belles paroles. Cette Afrique des hommes forts et non des institutions fortes que le président Obama a dénoncé dans son discours d'Accra est toujours là, très active, sémant la désolation dans un continent pourtant voué à un avenir prospère. Réélu pour 4 nouvelles années à la tête de la première puissance économique et militaire mondiale, l'Afrique attend du président américain plus d'action que des paroles stériles. Pour Forum des As, le gouvernement Obama II est appelé à mettre un terme à la guerre du M23 et à la crise de l'Est de la RDC. Selon ce journal, certes, l'administration Obama a suspendu son aide militaire au Rwanda, mais la mesure prise par Obama I pour punir Kigali est jugé disproportionné. Par rapport à l'acte commis, il est en deçà des attentes des Congolais. Pour ces raisons, écrit Forum des As, les Congolais aimeraient qu'Obama II change fondamentalement sa vision sur le dossier des grands lacs africains et qu'il prenne des mesures conséquentes en tant que superpuissance dans le sens de la fin de la guerre de l'Est de la RDC, comme il a fait dans son engagement à en finir avec la rébellion ougandaise de la LRA de Joseph Kony. Concernant le budget 2013 en discussion au Parlement, la prospérité souligne que Matata Ponyo met le cap sur le social des Congolais en réduisant le train de vie des institutions pour renforcer la solde des militaires. Ce quotidien rapporte que le Premier ministre a noté des inégalités flagrantes en matière salariale. Ce faisant, il a proposé d'appliquer les équivalences des grades décidés en 2007. Terminons cette revue de presse avec la référence plus qui affirme que la VSV se retire du procès chez B. Ce journal précise que les responsables de la VSV affirment ne pas vouloir cautionner une parodie de justice, la consécration de l'impunité en RDC et la pérennisation du régime des intouchables. Après son retrait, la VSV entend saisir les instances internationales.
Merci Samuel Kachak. Marcel Ngoï, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi cette décision prise par l'ONG de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix, qui suspend sa participation au procès Tchebeya pour raison des refus de la haute cour militaire de demander la comparution du général John Numbi.
Oui, bon, l'actualité est dense. Hein. Il y a aussi cette affaire du recensement général qui est projeté en 2013 et qui nécessite une cagnotte de 95 millions de dollars dont la République n'a pas, une cagnotte qui n'est pas bien sûr prévue dans le budget, et nous allons en discuter ici. Il y a aussi cette affaire de l'Assemblée provinciale de l'Équateur qui est, dont les travaux ont été débloqués parce que ça fait longtemps que cette Assemblée a été fermée. Il y a bien sûr cette affaire de changement des votes intervenus au Bas-Congo dans la province orientale. Ce sont là des sujets qui ont occupé la presse pendant cette période. Il y a même cette cybercriminalité dont parle Kim Kei ce matin au cours d'une conférence de presse à laquelle je prépare avec la signature d'un grand contrat pour le combat contre la fraude massive dans le domaine des télécommunications. Donc l'actualité est dense, quoi. Nous allons tout au long de cette émission en parler en long et en large.
Et voilà. Et par rapport au cas VSV, la décision prise pour se retirer du procès Kébéa, comment vous analysez cette décision?
Oh, la voie de sans voix, c'est cette structure pour laquelle Kébéa a consacré le meilleur de ses énergies. Et même lorsque il en est mort, c'est à la suite d'une invitation. Et je crois que cette structure est libre de prendre les décisions qu'elle peut prendre. La vérité, c'est qu'elle ne veut pas continuer à participer à un procès pour lequel elle voit déjà venir une décision presque acquise d'avance en sa défaveur.
Jérôme Colo, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Canal Congo Télévision. C'est une télévision qui est émise depuis Kinshasa. Vous, quelle analyse vous faites de la décision prise par la VSV?
Oui, comme Marcel Ngoï, je respecte en fait le choix fait par la voix des sans voix, mais c'est dommage un peu pour l'image de notre justice. Ça aurait été bien que toutes les parties prenantes à ces procès puissent continuer jusqu'au bout. Mais là, comme ils sont en train de, ils ont décidé de ne plus participer et qu'ils vont se référer aux instances judiciaires internationales, je ne sais pas comment ça va se passer. On va voir, mais tout cela est la conséquence du fait que on a senti quelque part comme si l'État est en train de protéger ses préposés. Et j'ai même suivi le ministre de la Communication dire que non, l'État doit protéger ses préposés. Et il y a eu même des avocats dans ces procès qui disent, en fait, défendre les préposés de l'État.
Ah, cela veut dire que la justice n'était pas indépendante?
Bon, la justice n'a pas donné en tout cas l'impression d'être indépendante dans ces dossiers. Parce que qu'est-ce qu'on va perdre? Si par exemple, au nom de l'état des droits, c'est quelqu'un qui a chapeauté une structure et que cette structure-là est accusée d'avoir commis un crime, par exemple, le membre de cette structure-là. Mais si on veut que la tête puisse y répondre, où se trouvent les problèmes? Parce qu'on voit sous d'autres cieux, par exemple, en cas d'une insuffisance de l'État, et c'est le responsable de ces services-là qui doit répondre.
Merci.
Et à ce que je sache, le général John Numbi est présumé innocent. L'État aurait beaucoup à gagner, par exemple, à accepter que John Numbi puisse participer à ces procès-là, quitte à le blanchir après. Parce que maintenant, là, comme on est en train de tout faire pratiquement pour que lui ne soit pas concerné par ces procès, ça donne raison à ceux qui disent que non, ça doit sûrement être un crime d'État et que ceux qui sont, semble-t-il, impliqués sont en train d'être protégés.
Merci, Jérôme Colo. Gaston Mouchid, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Manika, qui émet depuis Kolwezi au Katanga. La VSV prévoit même de saisir, JR l'a évoqué, de saisir les instances internationales en cas de non-satisfaction.
Oui, c'est vraiment dommage parce que la haute cour militaire, à mon avis, comme l'a dit tout à l'heure mes précédents, aurait accepté parce que ce n'est pas une condamnation que la VSV demandait pour le compte du général John Numbi, c'est une comparution. La justice qui est indépendante, qui peut faire un travail de qualité, pouvait faire comparaître le général John Numbi et quitte à lui de démontrer son innocence. Parce qu'à ce moment-là, le pays pourrait avoir un peu plus de poids ou la justice nationale pourrait être respectée. Mais non, le fait pour la haute cour de poursuivre l'audience sans VSV, j'ai lu que la prochaine audience est fixée le 27 novembre prochain, mais la VSV ne participera pas. Il va être question de faire un jugement et que après, si la VSV demandait à ce qu'une comparution prochaine s'efface, ça ne sera pas bien pour l'image de la République.
Merci Gaston. Un mot sur l'actualité qui domine aujourd'hui à Kolwezi au Katanga.
L'actualité, c'est que depuis un certain temps, il y a une fièvre entre les exploitants miniers artisanaux qui ont été sommés de déguerpir. Et donc, on a demandé une délocalisation des dépôts miniers d'exploitation de cuivre et de cobalt vers un site indépendant qui s'appelle Moussompo, à presque plus de 10 kilomètres de la ville. Mais les creuseurs ont fait des troubles il y a deux jours. Ils ont barré la route, mais les autorités politico-administratives ont réussi à calmer la situation. Et donc, dans un futur très proche, tous les dépôts miniers doivent être délocalisés. Donc, ils doivent quitter la ville pour être délocalisés en bourse.
Merci. Notre premier thème de ce soir, élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Barack Obama, réélu pour un second mandat de 4 ans. Barack Obama garde son fauteuil. Selon les résultats définitifs, il est réélu président des États-Unis avec 332 voix de vote des grands électeurs contre 206 pour le candidat républicain. Dans son discours, il a notamment promis de travailler avec les leaders des deux partis pour affronter les défis qui se présentent devant la nation américaine. On écoute le président américain Barack Obama dans cet élément recueilli par la Radio France Internationale.
Ce soir, que vous ayez voté pour moi ou non, sachez que je vous ai entendu. Sachez que j'ai appris de ce que vous aviez à dire et que vous avez fait de moi un meilleur président. En ayant écouté vos histoires, en ayant écouté vos luttes, je retournerai à la Maison Blanche, plus déterminé et plus inspiré que jamais, pour faire advenir notre avenir. Alors ce soir, vous avez voté pour le changement, pour l'action, et non pas pour la politique politicienne habituelle. Vous voulez que nous nous concentrions sur vos emplois, pas sur les nôtres en tant que décideurs politiques. Et sachez qu'au cours des semaines qui viennent, je travaillerai avec les leaders des deux partis pour affronter les défis qui se présentent devant nous, pour réduire le déficit, pour réformer la fiscalité, pour réformer les lois sur la migration. Nous avons beaucoup de pain sur la planche. J'ai toujours pensé que c'est dans la difficulté que l'on pouvait faire vivre l'espoir. Tant que l'on a le courage et la détermination nécessaires pour continuer de lutter dans la difficulté.
Son adversaire, le républicain Mitt Romney, a reconnu sa défaite et félicité le vainqueur. Marcel Ngoï, Barack Obama a été réélu en dépit du fait que certaines personnes avaient dit qu'il n'avait pas réalisé les promesses des campagnes. Et c'est un discours qui a été exploité pendant cette campagne. Et est-ce que pour vous c'était une surprise ou vous vous attendiez à cette réélection?
Je n'en étais pas surpris du tout.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, avoir la configuration, la façon dont cette campagne a été menée, lui qui est aux affaires avait quand même, à partir des pronostics, il avait toujours une longueur d'avance sur son principal adversaire dans cette campagne électorale qui s'est annoncée rude. Et vous savez que le système américain, ce n'est pas au dernier jour qu'on vote. C'est un système, quand vous prenez le 6 novembre, vous décalez les 45 jours. Durant 45 jours, on vote. On vote aux États-Unis. Donc déjà, au vu de l'avancée de vote progressif, on avait déjà une idée de ce que pourrait être le dernier résultat. Vous voyez que il n'y a pas moyen d'être surpris lorsque le système n'est pas comme celui de chez nous. On vous parle du 28 novembre. Et c'est seulement le 28 novembre où une grosse pluie vient nous surprendre. Ici, c'est le 6 novembre, mais avant le 6 novembre, il y a 45 jours que les Américains se rendent, font un vote électronique, font le vote déjà pour éviter un engouement ou des files devant les bureaux de vote. Donc, je ne pouvais pas être surpris parce que progressivement, on avait la température de ces votes-là.
Gérard Mokolo, Marcel Ngoï dit que ce n'était pas une surprise la réélection de Obama, mais il faut reconnaître que l'écart entre les deux personnes n'était pas aussi grand parce que il n'y a que 126 voix qui les a différenciés. Peut-on dire que la victoire d'Obama n'était pas acquise d'avance?
Non, cette victoire en tout cas n'était pas acquise d'avance compte tenu du fait qu'il avait fait un certain nombre de promesses qu'il n'avait pas tenues. On pouvait aussi s'attendre à ce qu'il soit sanctionné par le peuple américain, mais j'ai comme l'impression que les Américains se disent non, nous venons de passer comme ça deux mandats avec les Républicains, avec Bush, on a vu quand même beaucoup de dégâts. Et qu'il ne faille pas quand même comme ça, très rapidement, faire revenir un républicain au pouvoir. Et qu'au nom de l'alternance, on pouvait quand même faire confiance à un démocrate, voir s'il ne peut pas améliorer demain après demain. Mais ce qui m'a frappé dans cette élection, c'est le fait qu'on n'a pas considéré cette élection comme une question de vie ou de mort, comme chez nous ici. Quand on est au pouvoir, le pouvoir devient une sécurité pour celui qui est au pouvoir. Le pouvoir devient un moyen d'enrichissement pour celui qui est au pouvoir. Le pouvoir devient un moyen de pouvoir écraser. Il a même dit qu'il est le président de ceux qui ont voté pour lui et de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Donc on ne verra pas demain qu'on puisse se lancer par exemple une chasse à l'homme contre ceux qui avaient financé par exemple les républicains et pour les Américains qui consacrent par exemple pratiquement 6 milliards de dollars tous les budgets et d'organisation des élections et les budgets de campagne des candidats pour ces élections-là, pratiquement l'équivalent du budget congolais. Donc c'est quelque chose de très très important et ça doit en tout cas nous servir de leçon, ce qui vient de se passer aux États-Unis. Et puis c'est un négro, ce ne sont pas les Noirs qui ont voté pour lui, parce que si ce sont les Noirs, ils ne devaient pas l'emporter. Voilà. C'est parce qu'on a vu qu'il était porteur d'une vision pour l'Amérique.
Merci. Gaston Mouchid, Obama a été réélu, mais bon, ce qui importe pour les pays en voie de développement, c'est l'apport des présidents américains dans la résolution de nos problèmes. À votre avis, pourquoi les Africains comptent beaucoup sur un président américain? Pourquoi on a cette tendance-là à vouloir penser que les chefs de l'État américain a la capacité de trouver la solution à nos problèmes?
C'est tout simplement se faire des illusions. Voyez-vous, le président américain n'aura foulé le sol américain qu'à deux reprises en quatre ans. L'Afrique n'a pas été une préoccupation majeure de Barack Obama pendant son premier mandat, vous l'avez remarqué. Même lorsqu'on parle de l'Afrique qui attend beaucoup plus d'engagement avec Obama. Obama est le fils d'un Africain, mais Obama est américain. Son élection est historique dans un pays qui a connu l'esclavage, la ségrégation, mais sur les plans de la politique, il s'agit des grands calculs d'intérêt. Nous ne soyons pas naïfs en pensant que c'est Obama, président des États-Unis, qui va finir des problèmes en RDC, comme j'ai suivi la revue de presse que vous avez fait lire tout à l'heure, que des gens pensent que Obama va terminer la guerre à l'Est, Obama va financer ceci ou cela. Moi, je crois que c'est une grande illusion. Il ne faut pas que nous soyons naïfs. Nous devons nous prendre en charge pour que l'Afrique aille de l'avant. Pensez que Obama peut faire. Il y a déjà énormément de problèmes aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que Obama peut laisser ces problèmes-là pour tout de suite s'occuper de l'Afrique? Je ne suis pas sûr. Il avait fait la promesse à Accra, vous le savez, qui a dit que l'Afrique avait besoin des institutions fortes et non pas d'hommes forts. Mais est-ce que les États-Unis ont accompagné l'Afrique pour sortir celle-ci de son état? Je crois qu'il nous faut, nous en tant qu'Africains, penser à se prendre en charge. C'est là-dedans que vous trouvez, hein, d'ailleurs on va y arriver, que des pays comme les nôtres pensent que nous allons avoir un budget, il y a la communauté internationale, il y a les États-Unis qui vont nous financer. Non, je crois qu'il faut qu'on se prenne en charge. Si il peut venir un jour en Afrique pour aider, pour asseoir une politique qui marche, c'est un mieux. Mais il ne vient pas, il ne faudrait pas lui en tenir rigueur, hein. C'est un président des Américains. Il a été élu par les Américains, pas par les Africains.
Merci Marcel Ngoï, c'est une illusion que de penser que le président américain pourrait apporter des solutions aux problèmes qui affectent nos pays. D'ailleurs, les expériences du passé l'ont démontré que les interventions des différentes administrations américaines n'ont jamais été à la hauteur des attentes des pays africains.
C'est une véritable illusion. Illusion parce que les États-Unis comptent aujourd'hui 316 millions d'habitants. C'est le troisième pays au monde en termes de population, après la Chine et l'Inde. Et en tant que tel, aujourd'hui, les États-Unis sont secoués par des ouragans. Vous avez appris l'histoire de Sandy, ce qui s'est passé à New York. Vous avez appris beaucoup d'autres menaces, d'autres catastrophes naturelles. Et les États-Unis ont besoin aujourd'hui d'un apport du monde. Aujourd'hui, dans le cadre des changements climatiques, de cette affaire d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, les États-Unis, aujourd'hui, c'est aussi les États-Unis endettés. Donc, si vous regardez du côté de la CDB, la plupart des banques chinoises ont prêté beaucoup de moyens aux États-Unis. Donc, les États-Unis ne sont pas au-dessus de quoi que ce soit en termes aujourd'hui financiers. Les États-Unis sont endettés. Donc, c'est pour dire que, quelque part, l'interdépendance humanitaire, l'interdépendance des États est une nécessité, même pour les États-Unis, donnée technologiquement comme la superpuissance mondiale. Et donc, à ce niveau-là, il ne faut pas se faire d'illusions. Si on n'arrive pas à construire une politique africaine, une politique congolaise, qui ferait en sorte qu'un partenariat à ses conséquences soit signé avec les États-Unis, donc on se ferait des illusions.
Jérôme Colo, les États-Unis connaissent beaucoup de problèmes aujourd'hui, ils sont aussi endettés, et donc il ne faut rien attendre de la part de ces pays. Mais par rapport à la question de l'Est du pays, est-ce que les Congolais pourraient espérer qu'il y aura des actions qui seraient posées par Barack Obama dans le sens de solutionner la guerre qui se vit à l'Est du pays?
On dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Bon, apparemment, au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, de Grand Lac, à l'époque du maréchal Mobutu, la RDC était pratiquement la plaque tournante de la sous-région. Mais après le départ du maréchal, et aujourd'hui pratiquement le centre de gravité de cette région-là, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, et c'est avec ces États-là que les États-Unis coopèrent pour pouvoir diriger la sous-région. Et on dit aussi qu'elle doit laisser le TDRA. Il nous appartient à nous, Congolais, de pouvoir, comme l'a dit Marcel Ngoï, de mettre en place une politique qui répond, en fait, aux critères édictés par les États-Unis en termes de partenariat. La loi sur la GOA, par exemple, nous sommes exclus parce que nous n'avons pas pu continuer à répondre aux critères de cette opportunité offerte par les États-Unis aux pays africains. Aujourd'hui, nous rendons compte, par exemple, que ce qui se passe à l'est du Congo, c'est comme si le plan de balkanisation concocté depuis longtemps est en train vraiment d'être poursuivi. Et que les États-Unis et les autres puissances sont en train pratiquement d'agir par procuration, par le Rwanda, l'Ouganda interposé. Je ne vois pas qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire contre le Rwanda et, ou contre l'Ouganda et faire en sorte que nous, les Congolais, puissions trouver gain de cause. Nous devons cesser de croire que Obama est réélu pour trouver des solutions à nos problèmes. Obama serait réélu pour s'occuper de la situation à l'est du Congo. Les États-Unis ont beaucoup de problèmes de terrorisme. Il y a l'Afghanistan, il y a l'Irak, il y a maintenant la Syrie qui est en train de brûler. Et il faut trouver des solutions. Moi, je ne pense pas qu'il faille vraiment trop attendre de la réélection de Obama et que nous-mêmes, nous devrions nous battre pour faire en sorte que nous ayons une armée renforcée et qui soit à même de pouvoir résoudre les problèmes à l'est du pays, de pouvoir chasser tous ceux qui sèment l'insécurité et nous faire respecter, plutôt que de croire que, en croisant les bras, les États-Unis d'Obama viendront en tout cas trouver des solutions à notre place.
Merci Gaston Mouchid. Jérôme Colo affirme que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, mais nous rappelons que Madame Wendy Sherman, qui est sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, de passage en RDC, elle a affirmé que les États-Unis tenaient à l'intégrité territoriale de la RDC. Et à votre avis, comment considérez-vous cette logique selon laquelle les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, et la déclaration faite par Madame Wendy Sherman?
Oui, mais c'est une déclaration politique. Hein. Elle est passée par ici. Elle doit bien faire cette déclaration pour nous faire plaisir. C'est la RDC depuis un certain temps. Les rapports de l'ONU l'a démontré. Les États-Unis ont fait quoi? Parce que c'est connu noir sur blanc que le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Les États-Unis font quoi? Et donc, ils ne vont pas ménager des efforts pour aider la République à se relever en faisant quoi? Parce que le pays a besoin de la paix. Si le pays est stable, il peut se développer économiquement. Mais lorsqu'il n'y a rien qui est fait, on dit que c'est un silence complice, c'est un silence coupable. Même lorsque les États-Unis, par elles, disent vont intervenir et ne vont pas ménager aucun effort. Mais quel effort est-ce que les États-Unis ont fourni pour que cesse la guerre en RDC, pour que se développe ce pays? Moi, je crois que, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, c'est un problème d'intérêt. À partir du moment où les Congos, c'est le dernier de leurs soucis, bon, alors on laisse tomber. Même lorsque les États-Unis peuvent intervenir, est-ce que vous avez déjà vu un financement ou un appui économique des États-Unis qui dépasse $1 milliard américains pour un pays gros comme l'Europe de l'Est, quand vous nous donnez 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions, et on en fait la publicité? C'est pas ça qui va développer le pays. Ce pays a besoin d'une stabilité, et c'est cette stabilité qui va lui permettre de se défaire de la souffrance de la population.
Merci Marcel Ngoyi. Parlons maintenant des leçons que l'on peut tirer par rapport à ces élections. Il y a des scientifiques qui ont parlé, c'est comme notamment le professeur Chibangu Kalala qui a évoqué la stabilité et la régularité des institutions américaines. Il dit que ça fait plus de 2 siècles que les élections sont organisées dans ces pays de manière régulière. Il évoque aussi le respect de l'adversaire. Mais bon, nous savons qu'au Congo, cet aspect-là pose problème. Et ici, l'adversaire politique pense que injurier l'autre, pense que vexer l'autre, c'est un moyen pour lui de pouvoir davantage l'affaiblir. Comment vous analysez ces comportements des candidats américains?
Oui, mais ça fait l'histoire des États-Unis. Les États-Unis ont vécu sous la colonisation britannique. C'est depuis plus de 2 siècles que les États-Unis se sont défaits de la mainmise britannique sur les affaires. Vous voyez que la constitution américaine, c'est une des constitutions les plus stables au monde, où on a réussi à ajouter juste quelques amendements. Mais ici, chez nous, on ne peut pas faire allusion à nos constitutions sans se souvenir de ces changements intempestifs de constitution selon qu'on veut tailler cette constitution à la mesure de ses humeurs. Nous pouvons aller plus loin pour dire tout simplement que les États-Unis nous offrent là un modèle. Dans le discours d'Obama qu'il a prononcé, il y a notamment cette volonté de travailler avec les leaders de 2 partis. Donc, autrement dit, pour construire, bâtir une nouvelle Amérique, Obama a besoin, au cours de ce nouveau mandat, de travailler avec tous les grands leaders désignés par les 2 grands partis américains. C'est pour vous dire tout simplement que l'idée de la composition, l'esprit d'ouverture, l'esprit de recourir aux autres sans abdiquer à ses propres spécificités, c'est cela un peu cette politique qu'il nous faut peut-être chez nous ici pour pouvoir avancer un certain nombre de choses. Nous avons la guerre chez nous parce qu'il y a ces refus de dialoguer, les refus de s'ouvrir, les refus de recourir aux autres. C'est un peu ça. Nous avons gagné, nous avons 5 ans, par exemple, ici chez nous, et donc les 5 ans, il n'y a que nous. Et ça, c'est cette logique qui fait que les gens qui n'ont pas trouvé quoi que ce soit, vont recourir à des voies extrêmes que nous déplorons aujourd'hui. Des leçons à tirer sont multiples aussi sur ces élections américaines. Le niveau technologique, c'est en temps réel que nous avons les résultats. C'est vrai qu'officiellement, on aura des chiffres, tout ça, consolidés et consorts, mais les Américains, au cours d'une soirée qualifiée de soirée électorale, ont la mesure de ce qu'il faut.
Il faut se reconnaître que la presse a joué un rôle aussi important parce que la presse est en train de donner des tendances et ces rôles-là, la presse congolaise ne peut pas les jouer ici au Congo.
Oui, mais qui organise, qui soutient la presse? Aller aux États-Unis, interroger, c'est que quel est le budget que les États-Unis consacrent à la presse américaine? Il faut voir la publicité qui n'existe plus ici chez nous. Nous, toutes les entreprises publiques qui autrefois prenaient des espaces dans nos journaux, ces entreprises sont soumises à une certaine réforme qui les a finalement emportées dans une certaine paralysie, dans une certaine asphyxie. Donc, il y a quand même des mécanismes. Cette presse-là, appuyée par un niveau très avancé de technologie, a permis de contribuer à reluire l'image de ces élections-là. Nous devons tirer beaucoup de leçons d'ailleurs. Au niveau même, comme Chibangu l'a dit, Chibangu Kalala l'a dit, le prof, il dit que la considération de l'autre, c'est-à-dire qu'on ne considère pas forcément Mitt Romney, parce qu'il était adversaire, on ne le considère pas forcément comme ennemi. C'est un citoyen américain, il n'a pas gagné l'élection, il l'a reconnu, et il promet d'ailleurs de prier, lui qui est mormon, il dit qu'il va avec sa femme prier pour que l'Amérique de demain soit une Amérique puissante et forte.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Assemblée nationale, examen en cours à la chambre basse du Parlement du projet de la loi budgétaire pour l'exercice 2013 dont les recettes s'élèvent à 6 973,9 milliards de francs congolais, soit 7 400 millions de dollars. L'Assemblée nationale a entamé mardi dernier l'examen de ce projet de budget 2013. Il est question de débattre autour de ce texte de loi afin de ressortir ses faiblesses et ses points forts. Pour rappel, c'est lundi dernier dernier que le Premier ministre a procédé à la présentation de ses projets de loi, un budget dont les recettes s'élèvent à environ 7 milliards 400 millions de dollars américains. Selon le Premier ministre Matata Ponyo, ces projets prônent l'éclosion de la RDC dans le domaine tel que l'éducation, la santé, les droits humains, l'industrie, l'énergie et l'agriculture. Parmi les axes prioritaires auxquels le gouvernement compte s'attaquer figure la question des inégalités salariales. On écoute le Premier ministre Matata Ponyo dans cet extrait choisi par Mimi Ngumba Mulongo.
Devant les inégalités salariales constatées, les gouvernements viennent d'entamer une série de mesures pour rationaliser progressivement les rémunérations publiques. Ainsi, les gouvernements se proposent d'une part d'appliquer pour les institutions politiques les équivalences des grades décidées en 2007 et d'autre part de réduire les trains de vie de ces institutions en vue d'opérer une redistribution notamment en faveur de la solde des militaires et policiers. Aussi, les gouvernements sollicitent-ils les soutiens du Parlement pour que cette action, qui a une incidence sur le ruissellement de la richesse jusqu'aux plus démunis, trouve une issue favorable auprès de votre noble institution. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement sollicite les concours de votre auguste assemblée pour que le projet de mise à la retraite y trouve un écho favorable afin de lui permettre d'apurer progressivement les arriérés de pensions que l'État a accumulés et de redorer l'image des personnes ayant rendu des bons et loyaux services à la nation congolaise.
J.R. Mokolo, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Canal Congo Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Un budget estimé à 7 milliards 400 millions de dollars américains. Certains députés affirment que c'est un budget qui ne reflète aucune ambition de la part du gouvernement, parce que notamment les salaires n'évoluent pas.
Bon, c'est pas, j'ai comme l'impression que l'histoire est en train de bégayer sur le plan du budget de l'État. Chaque année, on entend pratiquement les mêmes discours. Il y a même des premiers ministres qui viennent pour nous dire, voilà, c'est la première fois qu'on atteint, c'est pas une telle enveloppe pour le budget. Moi, personnellement, je pense que le budget, c'est pas seulement la valeur numérique.
Les chiffres.
Ce sont pas seulement les chiffres. C'est la capacité de ces budgets-là de pouvoir permettre au gouvernement de faire face à ses obligations. On se rend compte que c'est pas possible. À une certaine époque, je crois dans les années 70, nous avions un budget de moins d'un milliard de dollars. Mais à cette époque-là, nous avions des enseignants qui étaient bien payés et qui étaient respectés dans la société. Le magistrat l'était aussi et l'État avait le moyen de sa politique. Comment expliquer aujourd'hui, nous avons un budget multiplié, je ne sais pas par combien, mais l'État se plaint de ne pas avoir le moyen de sa politique. Quand le premier ministre parle de combattre les inégalités, ah oui, c'est bien beau. Est-ce que on acceptera qu'on puisse enlever quelque chose dans l'enveloppe qui est réservée à la présidente de la République ou que les émoluments des députés passent, par exemple, c'est parce que c'est 6 000 dollars par mois à 3 000 et aujourd'hui, qui sont pratiquement là avec ce qu'ils reçoivent, ils doivent entretenir leur base. Et ça va se passer comment? Ce sont des promesses, mais je me dis que ça va être difficile en tout cas pour pouvoir les réaliser. En termes de recettes, par exemple, quand le Premier ministre compte sur les recettes venant des établissements d'enseignement supérieur universitaire, des hôpitaux de référence, je ne comprends pas. Est-ce que ces établissements d'enseignement supérieur universitaire et ces hôpitaux généraux de référence vont-ils devenir des régies financières au même titre que la DGRAT, la DGI, la DGDA?
Et avec ça, on ne pourra pas mettre fin au phénomène des parents qui prennent en charge les enfants.
On
ne
mettra jamais, parce que cet argent-là qui doit contribuer au budget de l'État, ce sont les parents qui doivent le payer. Et donc, l'enseignement aujourd'hui, et même les services de santé, deviendra un luxe pour certains. Et ça ne permettra pas, en tout cas, aux citoyens de pouvoir retrouver son compte. Parlons un peu des retraités. Sous d'autres cieux, quand quelqu'un a travaillé pendant autant d'années, et il prend sa retraite, il a de quoi en tout cas assurer la continuité de sa vie. Mais aujourd'hui, quand on vous met à la retraite, c'est comme une condamnation à mort. Parce que vous allez mener une vie misérable. Et même cette passion de retraite-là, on vous la donne même pas du coup. C'est des arriérés que vous devez, pour lesquels en tout cas vous devez mener des démarches de temps en temps pour avoir ça. Donc c'est une vie de misère après la retraite.
Merci.
C'est pas normal.
Marcel Ngoy, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui part ici à Kinshasa. Dans ces budgets, dans ces projets de budget, on affecte à peine 10% aux infrastructures, dont 8% aux routes. Et vous pensez que c'est suffisant, surtout pour les routes et les dessertes agricoles qui sont essentielles pour booster l'économie du pays?
C'est insuffisant, Guy Maté. C'est très insuffisant. Je ne veux pas dire un certain nombre de choses, mais je vais tout simplement me contenter de prendre un cas. Vous dites que vous voulez arriver à Matadi, vous mettez 5 litres de carburant dans un engin, est-ce que vous arriverez à Matadi? Vous voulez nous conduire vers le développement, mais il faut mettre à votre disposition les moyens nécessaires pour nous conduire vers ce développement-là. Cette fois-ci, on a choisi un budget qui n'est pas un budget équilibré entre les dépenses et les recettes. On a voulu dégager un gap de 104 millions. Mais si on veut aller vers un gap et rechercher des moyens, pourquoi ne pas définir un plan stratégique en vertu duquel on peut maintenant aller recourir au marché existant? L'argent flotte sur les marchés boursiers, sur les marchés financiers, sur les marchés de capitaux. On peut recourir, mais ça dépend de l'orientation que l'on veut prendre. Et tout en sachant d'ailleurs que la loi congolaise en matière de finances est interdite de faire du budget avec un gap. Mais du moment qu'on a choisi d'aller un peu plus loin vers un gap, on définit un gap de 104 millions. C'est trop faible. On aurait pu aller un peu plus loin. Je suis en train de penser ici à une publication que j'ai réalisée ce matin dans les colonnes de La Prospérité. C'est un député, un des 13 parlementaires de l'époque, François Lusanganyele, qui rappelle...
Les cofondateurs de l'UDPS.
Oui, un cofondateur de l'UDPS, qui rappelle que depuis Mouzet, à l'époque, était combattu par des rebelles qui devaient passer par Kabinda, atteindre le mouvement, et pour venir jusqu'à Kinshasa. Des promesses de Mouzet avaient été faites à un peuple, qui est le peuple Song. Depuis 1997, Mouzet a été assassiné en 2001. Puis, en 2001, Joseph Kabila, jusqu'aujourd'hui, il y a eu des budgets successifs qui ont été adoptés. Aucune ligne budgétaire n'a été exécutée. Ça, c'est un exemple d'un coin précis au cœur du Congo, à Kabinda. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que nous ne pouvons pas manquer de vous rappeler ici qu'il y a eu plusieurs budgets votés ici. Des promesses ont été faites aux journalistes, aux artistes. Des promesses ont été faites et aucun sou n'a été débloqué. C'est pour dire tout simplement que, nous, loin de nous leurrer, il faut absolument que le Parlement, qui a le pouvoir de contrôle sur ces budgets, il faut que la Cour des comptes, qui a un pouvoir de contrôle ex post sur ces budgets, exerce leur mission de contrôle. Avant de valider ces budgets, il faut pousser le gouvernement à définir une feuille de route assez concrète, plutôt que de nous vendre la poudre aux yeux.
Merci. Gaston Mouchid, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Manika, qui émet depuis Kolozi au Katanga. Dans ces budgets, l'enseignement primaire et secondaire a 7,91% et la recherche scientifique à peine 0,49%. On dit que les budgets reflètent la volonté du gouvernement. Pensez-vous que la volonté du gouvernement congolais est celle d'octroyer à l'enseignement primaire et secondaire, à la recherche scientifique, ces budgets qui sont pourtant des secteurs importants?
Moi, je crois que c'est un budget qui répond aux besoins des gouvernants, pas des gouvernements. Parce que quand vous parlez de 7,91%, aujourd'hui, dans toute la République démocratique du Congo, les parents se cassent en mille morceaux pour envoyer leurs enfants à l'école. Ce sont les enfants qui payent les enseignants, de l'école primaire à l'école universitaire, en passant par les secondaires et les humanités.
Ce sont les parents qui payent les enseignants.
Sont les parents. Je ne sais pas si à Kinshasa, c'est le système de prise en charge des parents, des enseignants par les parents n'existe pas.
Mais c'est un système qui est démis partout à travers la
République. C'est un système qui est général. Maintenant, avec 7,91%, est-ce que vous allez finalement laisser les parents se reposer? Parce qu'il y en a qui ne scolarisent pas leurs enfants, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le moyen d'envoyer 5, 6, 7 élèves à l'école, parce qu'il faut payer chaque mois, et c'est compliqué. Quand vous parlez de 8% pour les routes et consorts, ce pays, il est classé parmi les pays les plus riches du monde. Vous le savez, il y a un problème en RDC. Il y a une très faible mobilisation des recettes parce que il y a une faible capacité matérielle et humaine des institutions chargées de recouvrer les recettes. Les agents de ces institutions qui sont mal rémunérés, qui sont démotivés, se sont transformés en des conseillers fiscaux, des contribuables, favorisant ainsi une énorme évasion fiscale. On trouve que les gens qui vont percevoir mettent dans leur poche au lieu de mettre dans l'assiette fiscale, tout simplement parce qu'il n'y a pas une politique de mobilisation des recettes. Un agent, un fonctionnaire, un agent de douane, un agent qui s'occupe de la perception des taxes ne touche pas plus de 50 000 francs. Comment est-ce qu'il va vivre? Donc il va se servir avant de servir l'État. Prenez un exemple du Katanga. Lors de l'entrée au pouvoir au Katanga, le gouverneur Moïse Katumbi-Tshape a fait des efforts pour pouvoir maximiser les recettes dues au trésor public. Mais après coup, quand on a maximisé les recettes multipliées par autant, est-ce que le gouvernement de Kinshasa lui a donné sa restitution? Il n'y a pas de 40% des pays jusque maintenant. Le gouvernement prend tout. Est-ce que c'est des valeurs susceptible d'encourager des gens à la base de fournir des efforts pour pouvoir produire davantage.
Merci.
Donc je crois qu'il faut d'abord remercier, il faut bien rémunérer les gens qui sont en train de percevoir. Ça c'est d'une part. De l'autre, utiliser les ressources naturelles qui existent. Musée l'a démontré. On a vu à l'époque de Musée que, sans dette extérieure, il a quand même dirigé ce pays avec les ressources naturelles.
Merci.
Nous avons ici des exploitations minières, nous avons des énergies, nous avons énormément de richesses pour pouvoir créer des moyens.
Merci, Jérôme Colo. Certains experts pensent que ce pays détient plusieurs sources de financement. Il y a même Gaston Mouchid qui venait de l'évoquer. Et que si ces ressources sont bien identifiées, le gouvernement pourrait élaborer un budget consistant. Et pourquoi cela n'est-il pas fait? Il y a Gaston qui a évoqué la faible capacité de recouvrer les recettes.
Oui, ça c'est une question aussi. Par exemple, les trains de vie même de ceux qui sont chargés de recouvrer les recettes, leur salaire par rapport à ce qu'ils ont comme jeep, comme immeuble en construction ou déjà achevé. Et le grand problème, c'est lequel? La grande question que nous devons nous poser, qu'est-ce qui doit être fait pour que les richesses du Congo puissent quand même bénéficier à tous les Congolais? Comme Gaston Mouchid l'a dit, par exemple, les ressources minières, même les ressources forestières, c'est bradé. La RDC est victime, je ne sais pas, d'un partenariat entre certains hommes d'affaires occidentaux verrés et la bourgeoisie comprador. Parce que nous avons la Libye, par exemple, qui a fait sa prospérité rien que sur le pétrole. Il y a l'Algérie aussi, le pétrole et le gaz. Mais nous avons une multitude de ressources minières. Comment se fait-il que nous ne pouvons pas faire en sorte que ces ressources-là soient exploitées de façon à donner à l'État le moyen de sa politique?
Merci. Marcel Ngoyi, les problèmes se situent à quel niveau?
Nous avons un problème de manque de volonté politique. On n'a vraiment pas besoin de développer ces pays. À la Kinsuka, Kinsuka pêcheur, Kinsuka pompage, vous allez voir combien il y a des moellons qui peuvent être transformés en caillasses. Et pourquoi on ne peut pas, aujourd'hui, créer une compagnie nationale qui exploite ça et qui vend? Là que la compagnie nationale d'aviation n'a pas d'avion. Nous n'avons pas, nous, la volonté de développer ces pays. Voilà pourquoi nous trimons. Le premier ministre parle du ruissellement de la richesse. Moi, je veux plutôt parler du ruissellement de la pauvreté.
Et la privatisation de l'État.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Claude Ntiala a été à la technique et Samuel Kachak à la réalisation. Sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.